Vous écoutez France Culture.
7h40, les invités des matins, Jean-Marc Daniel, Éric Dupin, bonjour messieurs.
Bonjour.
Du global au local, du global au local, la formule entendue souvent pourrait s'appliquer ce matin aux grilles de lecture choisies par nos deux invités dans leurs livres respectifs pour comprendre le fonctionnement de l'économie et notre adaptation à cette économie. D'un côté, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP Europe Paris, l'école supérieure de commerce, et chargé de cours à l'école des mines de Paris, spécialiste d'histoire de la pensée économique et des politiques économiques. Avec votre livre « L'état de connivence, en finir avec les rentes » paru hier chez Odile Jacob, vous mettez volontairement les pieds dans le plat en signant ce qui pourrait être un manifeste libéral célébrant la concurrence économique par temps de crise, par gros temps. Quoi. Manifeste qui, par son érudition, concerne l'histoire de l'économie et qui pourrait correspondre, on va dire, à la partie globale de l'émission de ce matin. Pour le local, avec son bâton de pèlerin, nous nous adresserons à Éric Dupin. Bonjour Éric Dupin,
bonjour.
Journaliste, essayiste, collabore au Monde Diplomatique et à Slate. Votre dernier ouvrage, Les Défricheurs, voyage dans la France qui innove vraiment, paraît aujourd'hui à la découverte, et se penche sur ces personnes qui rompent d'une façon ou d'une autre avec notre modernité économique, entre autres, pour recréer eux-mêmes des conditions de leur épanouissement. Deux grilles de lecture, celle du temps long, de l'histoire, de l'économie, la France et des fricheurs, pour comprendre, au fond, la situation que nous traversons et les issues possibles. On pourrait dire que vous êtes tous les deux, au fond, deux sortes de Don Quichotte. Hein. En ce moment, les politiques s'accrochent à des prévisions économiques sans cesse remises en cause, tandis que vous, vous dites qu'il y a, au fond, des solutions, qu'elles soient interplanétaires, sidérales ou encore microcosmiques. Mais nous verrons avec vous tout de même tout cela dans un second temps, parce que vous le savez, l'actualité nous rattrape ou nous devance toujours. Regardez la une des journaux Jean-Marc Daniel et Éric Dupin aujourd'hui. On va aller de Libération au Figaro. Croissance, déficit, dette, dit le Figaro. Le naufrage. L'exécutif a dû réviser une nouvelle fois ses prévisions économiques. L'engagement de ramener en 2015 le déficit à 3% du PIB ne sera pas tenu. Tandis que Libération, là aussi, titre déficit public à nouveau en hausse, croissance stagnante. Hollande est dans le rouge. Et puis, cette nouvelle, Pierre Moscovici, celui qui n'y a pas longtemps présidé justement, notamment aux décennies économiques de cette politique, se retrouve gendarme de la France. Il est peut-être, comme le dit Le Figaro, condamné à la schizophrénie. Voilà l'ensemble de l'actualité de ce matin, qui n'est pas sans de nombreux paradoxes. Jean-Marc Daniel.
Oui, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, enfin, je ferai trois commentaires. Le premier commentaire, c'est le président de la République nous avait annoncé le retournement conjoncturel, le retour de la croissance, et ça se fondait en fait sur une analyse un peu des cycles économiques. L'économie est assez cyclique. La crise de 1993, qui était à l'origine une crise financière avec des faillites dans l'immobilier, puis un déroulement un peu proche de ce qu'on a connu depuis le 2009, a débouché en 1998 sur une reprise assez forte. Donc, un petit calcul, 2009, 5 ans de plus, on est en 2014, et donc avec une vision un peu mécaniste de l'économie, on pouvait espérer le retournement conjoncturel.
Ça, c'est un peu Madame Irma aussi, non?
Oui, c'est un côté enfin, un peu Madame Irma.
Enfin,
c'est, côté...
c'est mécaniste, moi, je
oui, un peu mécaniste. Même, c'est-à-dire, oui. L'économie se reproduit comme une horlogerie.
Les fameux cycles.
Les cycles vont revenir à notre secours. Et quand on regarde, finalement, ce n'est pas totalement absurde, parce qu'effectivement, il y a des pays autour qui vont mieux. Il n'y a que trois pays dans l'Union européenne dont le chômage augmente. La France, la Croatie et la Suède. Et donc, ça veut dire qu'il y a une reprise qui est en train de se manifester et la France n'est pas au rendez-vous de cette reprise. Et donc, alors cette reprise n'est pas très forte et la France n'est pas au rendez-vous de cette reprise. Donc, le désarroi de nos dirigeants est absolument compréhensible. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire dans la mesure où ceux qui devaient les aider n'est pas au rendez-vous. Or, ce qu'ils ne mesurent pas, à mon avis, c'est qu'ils sont responsables de cette absence de reprise.
Pardonnez-moi, est-ce que ça n'était pas un peu imprudent de parier sur cette question de tout de même de cycle? Bon, vous êtes un scientifique de l'économie, mais tout de même.
Oui, si vous voulez, la théorie du cycle, alors, c'est un des cœurs même de la réflexion économique du moment, puisqu'il y a toute une tradition économique qui attribue le cycle à la politique monétaire, une autre qui l'attribue à l'investissement, plutôt celle qui est dominante. Et puis, effectivement, maintenant, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'économistes, ou les économistes de la nouvelle macroéconomie classique, qui disent, non, en fait, il y a des chocs de temps en temps qui sont liés à des nouvelles technologies, mais ce que vous interprétez comme étant des cycles, c'est purement des artefacts statistiques. Vous voyez que de temps en temps, ça va mieux, de temps en temps, ça va moins bien, et vous essayez de reconstituer une explication a posteriori de choses que vous ne comprenez pas. Et donc, c'est plutôt inquiétant, puisque la pensée économique dominante, c'est ne vous faites pas d'illusions, vous n'arriverez pas à comprendre. De toute façon, tout ça est relativement aléatoire. Et la bonne explication, ce n'est pas une vision très mécaniste de l'économie, c'est une vision extrêmement probabiliste de l'économie.
Dans les Inrecutibles cette semaine, Arnaud Montebourg qui dialogue avec Thomas Piketty, je ne vous parle pas du Paris Match, où on voit Arnaud Montebourg en compagnie d'Aurélie Filippetti dans Lune de Miel à San Francisco. Je vous parle bien des Inrecutibles, nous sommes sur France Culture, nous sommes sérieux. Il dit ceci, Arnaud Montebourg, la question de la croissance a été envisagée comme une grâce qui devait tomber du ciel et que le président attendait comme on attend Godot. Sans prendre toutes les décisions qu'il devait...
Je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire cette idée, cette vision un peu mécaniste et un peu... je qualifie ça quelquefois de néopagnien, c'est-à-dire les dieux vont s'intéresser à nous, les dieux vont nous aimer, il suffit qu'on fasse quelques gestes symboliques pour que les dieux s'intéressent à nous. Cette vision est en train d'échouer parce qu'effectivement, la croissance, il y a ces dynamiques qui sont des dynamiques relativement théorisables, même si, comme je le disais, on peut se les contester. Il y a des constats qui ont pu être faits, puis il y a quand même une politique économique, et la politique économique est en train d'échouer, et c'est là qu'on revient un peu à ce que je raconte dans le livre. Je pense que l'instrument est un instrument utilisé qui n'est pas le bon, qui a été un instrument systématiquement autour de l'État et avec en particulier, pour redresser les comptes, un abus de fiscalité, puisque même Moscovici a fini par le dire, alors que le bon instrument, c'était l'esprit... Alors Montebourg était à un moment donné au rendez-vous de ça, c'était la déréglementation, la remise en cause de ce que j'appelle les rentes. Et quand, dernier commentaire sur Moscovici, alors Moscovici, c'est le parfait haut fonctionnaire, c'est-à-dire vous le mettez dans une pièce...
On n'est pas dans le moindre des paradoxes qu'il devienne au fond le gendarme d'une politique qu'il a appliquée et qu'il a menée il n'y a pas si longtemps, à laquelle il a participé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois.
Oui, alors c'est le caméléon pur, vous le mettez dans une pièce, vous le mettez à Paris, il dénonce les sadomonétaristes de Bruxelles et de Francfort, vous le mettez à Bruxelles, il est plus friedmanien que Friedman. Donc je pense que ce qui était inquiétant, c'est le symbole que ça donne effectivement d'une classe politique française qui manque de colonne vertébrale à une période où il faudrait avoir des idées claires et une véritable détermination pour faire toutes ces réformes structurelles qu'on nous demande. Parce que notre classe politique gère des mots, alors compétitivité, déflation, réformes structurelles, et puis derrière ces mots, il y a une espèce de flou artistique. On est purement dans la fiction, dans le roman, mais jamais dans l'action.
Éric Dupin ?
Oui, juste deux remarques d'ordre politique, mais qui sont assez cohérentes avec ce que vous venez de dire. La première, c'est qu'en effet, il y a une sorte de pensée magique en économie, dans la classe politique, de pensée d'ailleurs qui s'alimente à des sources qui sont souvent des sources intellectuelles relativement obsolètes, et François Hollande en est un exemple. Et c'est ce qui explique aussi cette espèce
de
désarroi.
Vous voulez dire qu'il ne consulte pas assez Jean-Marc Daniel, c'est ça ?
Je pense qu'il vit, comme beaucoup dans la classe politique, sur des acquis qui ont été ceux des bancs de l'école de Sciences Po, de l'ENA, mais de plusieurs décennies, peut-être même qu'à l'époque...
Et de l'école de commerce. Jean-Marc Daniel, dans son livre, dit...
Il était à HEC aussi.
François Hollande devrait se souvenir...
Mais il a fait quelques passages. Il n'est peut-être pas l'étudiant le plus engagé dans ce style de domaine. Et la deuxième remarque que je voulais faire, et ça elle porte sur le discrédit de la politique, et ça c'est tout à fait dommageable, quelles que soient ensuite les orientations qui sont prises, c'est qu'il ne faut pas oublier que François Hollande, j'avais vu ça lors de mon dernier livre, La victoire empoisonnée, François Hollande avait assis sa crédibilité auprès de l'establishment qui aime bien qu'on lui dise des choses sur les déficits, etc., en disant « attention, moi, président, je ramènerai les déficits publics à 3% dès 2013. » Et il faisait de la surenchère par rapport au projet socialiste. Martine Aubry, d'ailleurs, avait été obligée de le rejoindre sur ce terrain-là. Et là, on vient d'apprendre que cet objectif qui devait être atteint en 2013 est repoussé à 2017.
Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut peut-être parler de la croissance, là aussi, autrement? Allez, je vous cite de vos collègues, je ne sais s'il est ami ou pas, mais toujours Thomas Piketty, cette fois dans Les Inrecuptibles, qui dit « Il faut s'habituer à l'idée de la croissance faible, ce qui ne veut pas dire une croissance zéro. La croissance exceptionnelle des 30 glorieuses, celle de la reconstruction, ne reviendra pas. »
Oui, c'est la thèse centrale du livre de Thomas Piketty qui a eu un succès très important d'abord en France et puis surtout aux États-Unis. Oui, exactement, je me le souhaite aussi. Et ce que je trouve intéressant dans le livre de Thomas Piketty, parce qu'il y a eu des critiques que je trouvais absurdes, c'est-à-dire on essayait de critiquer la partie théorique du livre alors que Thomas Piketty a incontestablement une très grande maîtrise du raisonnement économique, de la pensée économique. Enfin, c'est un vrai économiste au sens le plus noble du terme. Et il partait de cette idée que le taux d'intérêt étant égal au taux de croissance par résultat de calculs assez élaborés, mais extrêmement précis et minutieux, et que la croissance historiquement est plutôt basse, il faut que les taux d'intérêt soient très bas, et comme on n'y arrivera pas, il faut ponctionner les revenus du capital par la fiscalité. Et donc il y a l'idée que la croissance sera durablement basse. Alors moi je ne suis pas d'accord pour deux raisons. La première raison, et c'est une des faiblesses du livre, c'est qu'est-ce que c'est que la croissance? On rejoint un peu ce que dit Éric Dupin, c'est comment est-ce qu'on mesure la croissance? Regardez les débats qu'il y a en ce moment au sein de nos services statistiques. Quand on passe de la 3G à la 4G, normalement on apporte un service supplémentaire aux citoyens, et donc il y a eu de la croissance économique. économique. Sauf que quand vous demandez aux gens quel est l'apport, quel est le plus, quel est le revenu supplémentaire, quel est le service réduit supplémentaire, quel est le bien supplémentaire qui leur a été apporté, ils sont absolument incapables de donner un résultat chiffré. Donc vous avez du mal à chiffrer la croissance. Quand on a commencé à mesurer la croissance, quand il s'agissait de regarder combien produisait un champ de blé, et puis on regarde l'année d'après, on s'aperçoit qu'il produit 3 ou 4% de grains en plus, il y a de la croissance économique mesurable. Maintenant, vous avez tellement d'effets qualité dans la croissance que c'est très difficile à mesurer. Et donc l'idée qu'il n'y aura pas de croissance est une idée assez quantitativiste, alors que je pense qu'il faut raisonner de plus en qualité. Et le raisonnement en qualité se mesure par, on en revient à mon idée fixe, par la confrontation permanente aux autres qui mesure qu'on apporte quelque chose de plus parce que du fait de la concurrence, on va être en permanence innovant.
On pourrait dire que la thèse, au fond, inverse à celle que prône Thomas Piketty sur la question de la rente dans son livre, la vôtre, c'est tout simplement de dire que la meilleure arme contre la rente, c'est la concurrence.
Absolument. La démarche de Piketty, c'est que nous partons en fait du même constat, il y a des rentes. Et il dit, ces rentes, mais c'est à l'État d'aller les pourchasser. Et le bon outil pour l'État, c'est de faire de la fiscalité pour accaparer une partie de cette rente. Moi, je dis, il faut la détruire. Et le bon outil de la détruire, alors on la connaît depuis le 18e siècle. Dans mon livre, je mets en parallèle les keynésiens au sens de Keynes. Et puis moi, je me définis keynésien au sens de François Keynes, qui était le leader des physiocrates, des économistes du 18e siècle. D'emblée, François Kennedy, l'État, d'abord, il est dans l'intérieur du système, donc il voit les faiblesses du système, et il dit, le véritable enjeu, c'est de donner à chacun la possibilité de s'exprimer, et donc de lui mettre une épée dans les reins, et cette épée dans les reins, c'est la concurrence. Et donc,
la concurrence, dites-vous, signifie l'égalité sur le marché lui-même, entre producteurs et consommateurs.
Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette rente, dans ce bénéfice de la... Quand, dans la solution Piketty, c'est l'État qui accapare les résultats de la rente, avec la concurrence, c'est le consommateur, c'est-à-dire c'est vous et moi qui accaparons la rente, qui récupérons l'efficacité du système productif. Et donc, et ce que je trouve intéressant d'ailleurs, c'est que tous les gens qui critiquent la concurrence n'arrêtent pas de dire, mais c'est au service du consommateur. Et mon propos, c'est de dire, mais oui, c'est au service du consommateur, parce que tous les individus sont nos consommateurs. Le consommateur, par essence, c'est vous, c'est moi, c'est l'homme.
C'est en ce sens que vos défricheurs se distinguent de tout cela et disent, on veut échapper à peu près à tout ça, Éric Dupin.
Ben oui,
pour
non,
la plupart, hein, pour caricaturer un
non,
peu.
Oui,
pour
non,
plupart.
Parce que le rapport à l'État est aussi critique que celui de Jean-Marc Daniel. Ce sont des gens qui croient à une forme d'économie de marché. Alors, ils ont leur marché, leur micro-marché. Ils ne croient pas forcément à une concurrence de manière théorique. Mais ce ne sont pas des gens qui pensent que des métasystèmes peuvent assurer un bonheur social. Ils ne sont pas du tout dans cette logique.
Alors, Jean-Marc Daniel, il y a tout de même, et il faut le rappeler, un mot extrêmement fort qui pourrait ressembler à une sorte presque de procès, de mise en accusation. Hein, ce mot écrit en gros et en rouge à la une de votre livre, hein, c'est l'état de connivence. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette connivence? On sait qu'en notre temps, les intellectuels ont pu le dénoncer, cette connivence-là aussi, entre les clercs, entre les élites. Hein, voilà. La connivence, c'est un mot qui est très très fort, très dénonciateur.
Oui, c'est un mot très dénonciateur qui est utilisé en général pour traduire une expression anglaise qui est américaine, qui est crony capitalism, capitalisme donc des copains, donc le capitalisme de connivence. Derrière ça, il y a cette idée qu'effectivement, comme il n'y a pas de concurrence, en permanence, on a une idéologie de rapport privilégié entre l'État et le monde des affaires, et il y a un esprit de connivence qui est un esprit qui va depuis toute forme de conservatisme qu'on retrouve dans les partis d'extrême gauche ou dans les syndicats, et un conservatisme qu'on voit chez le patronat. La traduction pour moi, c'est deux choses. C'est la théorie des champions nationaux. On va aider, on va faire une politique industrielle, on va s'entendre, on va se réunir pour savoir qui doit être détenteur de Alstom. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption, je dis qu'il y a de la connivence. C'est-à-dire la corruption, c'est la malhonnêteté. Là, il y a une intention de bien faire, mais il y a cette idée que quand on s'entend, et qu'il y a une forme d'élite qui sait mieux que le marché, mieux que les gestes individuels des gens, la réalité de ce que doit être l'économie et notre avenir et notre bonheur. Et donc ces gens s'entendent. Et donc pour moi, les deux exemples les plus récents, c'est.
Quoi, ils s'entendent sur le dos de tout le monde, sur le dos des électeurs, ce qu'on reproche aux politiques notamment.
Oui, ils s'entendent en fait, encore une fois, pas à leur profit, puisqu'ils génèrent des rentes et les bénéficiaires de leur entente ne sont pas eux-mêmes directement. Donc dans l'affaire Alstom, il y a tout un maelstrom qui a été mis en place dont l'objectif était plus ou moins à la fois au nom de l'identité nationale, de la sauvegarde du patrimoine national, était de conforter la situation de l'entreprise Bouygues. Quand vous regardez les négociations qu'il peut y avoir sur le statut, notamment des régimes spéciaux et tout ça, il y a une forme de connivence. C'est-à-dire on préserve le statut des gens en place, qui sont les agents publics, et la conséquence, c'est que cette préservation, cet accord, se fait sur le dos des consommateurs et du reste de la population. Et pour conclure là-dessus, moi, ce qui me frappe, et ce que je mets au début du livre, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir sur le plan politique, les communistes étaient dominants, ils dénonçaient le capitalisme monopoliste d'État. Ouais. Je me souviens des grandes diatribes qu'ils faisaient, et je dis, mais je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire que leur capitalisme est un capitalisme de monopole, de copains, d'entente, de champions nationaux, et je dis simplement, sur leur outil, moi, je ne suis pas d'accord. Eux, ils disaient, il fallait supprimer le capitalisme, moi, je dis, il faut supprimer le monopole et l'État. La vraie révolution...
Oui, vous parlez quasiment de dictature du patronat, ce qui va faire sourire quelques-uns dans votre bouche, quand même, hein, Jean-Marc Daniel.
Je trouve qu'il y a un patronat, il y a deux formes de patronat. Il y a un patronat qui est ce que j'appelle le patronat Mimrel. Mimrel, c'était le chef du patronat au 19e siècle, et il y a eu, au travers des histoires politiques du 19e siècle, il a été monarchiste pour Louis-Philippe, il a été républicain, bonapartiste et tout ça, et à la fin de sa vie, il est sénateur de la 3e République. On lui dit, vous êtes quand même un sacré opportuniste. Et il dit, pas du tout, j'ai toujours été protectionniste. Et donc, ce patronat qui a toujours été protectionniste, il est à mon avis aussi dangereux que les conservateurs d'extrême gauche ou d'extrême droite.
Éric Dupin ?
Moi, je me garderai de faire croire que je suis en tout point d'accord avec Jean-Marc Daniel, notamment...
Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous savez, il a du cuir.
Ah non,
cuir,
ça, ça ne m'a jamais gêné, comme vous le savez. Notamment par le fait que la concurrence peut être, mais il faut quand même qu'il y ait une sorte d'équilibre entre la compétition et la coopération, qui sont deux tendances de l'espèce sociale humaine. Mais sur la connivence... là, je serais assez d'accord, et nous avons quand même un exemple tout à fait fabuleux. Quelqu'un qui aujourd'hui est très très à la mode, qui a beaucoup de talent, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui est quelqu'un qui représente tout à fait ces tendances de connivence entre les élites politiques et les élites économiques. Hein, la banque d'affaires, les cabinets ministériels, maintenant le gouvernement. Donc, quelles que soient les qualités de cette personne, qu'il ne faut pas réduire d'ailleurs à un épisode de sa vie professionnelle, il ne faut pas caricaturer. Mais là, nous sommes dans ces élites qui sont très souvent consanguines, qui fonctionnent en réseau, les élites médiatiques d'ailleurs étant parfois partie prenante, et ça, je vous garantis que mes défricheurs ne supportent pas du tout ce genre de phénomène.
Ah oui, non, là aussi, ça va peut-être choquer les auditeurs, mais je suis d'accord avec Éric Dupin. Je pense qu'effectivement, la nomination de Emmanuel Macron est un symbole catastrophique. C'est-à-dire, c'est l'inspecteur des finances, c'est l'archétype de la connivence. En fait, la même semaine, notre Premier ministre va à HEC, mais uniquement à l'université d'été du MEDEF. Comme je dis dans le livre, à HEC, ce n'est pas l'université d'été du MEDEF qu'il faut aller. C'est aller faire des études pour apprendre à créer des entreprises. Et ils arrivent, ils vont à jouer à Josas, et puis ensuite, ils disparaissent et ils oublient tout ce monde-là. La vraie mesure qu'il aurait fallu faire, c'est non pas nommer M. Macron, mais supprimer le ministère de l'économie. L'économie n'a pas besoin de ministre. L'économie, elle a besoin...
C'est vous, le chroniqueur à BFM, qui dites ça.
Mais je pense qu'il faut...
Parce qu'il faut citer nos amis et concurrents, n'est-ce pas,
quand même. Absolument, mais l'esprit de BFM, c'est de défendre les entreprises, pas le ministre des entreprises. Il n'y a pas besoin de ministre des entreprises. Il y a besoin d'entreprises libres, d'entreprises dont on respecte effectivement la capacité à créer de la richesse. Le personnage important, c'est les pigeons et je ne dis pas que le MEDEF joue son rôle, mais le MEDEF ne peut pas être vécu comme le représentant du monde des entreprises. Il est le représentant syndical du monde des entreprises.
Vous saurez quoi faire, Éric Dupin, dans une édition augmentée de vos défricheurs. Il faudra faire un chapitre, Jean-Marc Daniel, qui propose de supprimer le ministère de l'économie. Pour terminer cette première partie, tout de même, et revenir à cette actualité, selon vous, le gouvernement et la politique économique du gouvernement est mal emmanché, pour le dire comme ça.
Oui, je crois qu'elle est
Libération dit on ne change pas une politique qui perd, c'est-à-dire que c'est trop tard, rien ne se redressera.
Elle est mal emmanchée. Je crois qu'il y a deux choses fondamentales qui nuisent à la politique. C'est d'abord une erreur de diagnostic, une obsession sur les enjeux de politique monétaire, une obsession sur la monnaie.
Maintenir la politique keynésienne,
Et à partir de là, maintenir la politique keynésienne, le discours sur la déflation est un discours qu'on pouvait tenir dans les années 30 qui correspondait à la situation à laquelle répondait Keynes, mais ça ne correspond pas. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir, dans l'urgence, massacré sur le plan fiscal tout le tissu productif de ce pays.